je vais prendre, c'est des courgettes, ça. Oui, je vais en prendre une. Non, 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 non. Oui, parce que j'en ai une verte déjà. Des carottes. Oui, 1 kg de carottes. On va faire une bonne soupe de ce temps-là, ça va nous réchauffer.
Le Sud Touraine dans l'assiette, le podcast avec celles et ceux qui font l'alimentation, part à la rencontre des maraîchers du territoire qui fleurissent depuis quelques années pour le plus grand bonheur des amateurs de légumes. Marie Kielbaza et Mathieu Bègue, jeunes agriculteurs installés après des reconversions professionnelles, et Jérôme Tarnier, qui pérennise l'entreprise familiale, nous expliquent leur métier, leur choix de modèles économiques pour vivre d'une activité soumise notamment aux aléas climatiques, aux exigences du travail de la terre et à l'acquisition du foncier. Christelle et Jérôme Tarnier dirigent les établissements Tarnier à Beaulieu-les-Loches, entreprise familiale depuis 4 générations qui a su s'adapter pour diversifier ses modes de distribution.
Je m'appelle Jérôme Tarnier, je suis maraîcher, je me suis installé en 1998. C'est une exploitation familiale, je suis la 4e génération. Nous faisons principalement des légumes de saison, de circuit court évidemment, mes grands-parents faisaient déjà ça, mes parents aussi, et puis j'ai continué le circuit court, même en développant un petit peu plus les cantines, les restaurants, quelques supermarchés et cuisines. Ça, c'est moi qui ai développé ça depuis pas très longtemps. Nous vendons sur place à une petite boutique et puis nous faisons les marchés traditionnellement depuis toujours. Voilà. On a toute une gamme diversifiée, selon la saison. On produit ce qu'on peut produire. On écoute aussi les gens. Il y a des choses qui se vendent plus, d'autres moins. On respecte la nature au maximum. On respecte les saisons, voilà.
Vous êtes installé depuis 1998, mais l'entreprise existe depuis quand ?
On a des preuves jusqu'à 1906 à peu près. 1904-1906, on a trouvé les traces de factures. Après, on ne sait pas trop, hein, voilà. Mais il y a toujours eu du jardinage ici.
Donc, est-ce que vous pouvez un peu me dire, en fait, un peu étape par étape, comment a commencé l'entreprise ? Avec quoi ? Sur quelle surface ? Et comment, un peu, au fil des années, et pour répondre peut-être aussi à quelle demande, elle s'est développée ?
Ben, mes arrière-grands-parents, forcément, c'était un cheval et puis il y avait 50 hectares. Aujourd'hui, forcément, il y a des tracteurs et puis on a 30 hectares. Donc forcément, on ne joue pas dans la même cour. À l'époque, c'était les chevaux, la Première Guerre mondiale. Il y avait beaucoup pendant les deux guerres, mes grands-mères et arrière-grands-mères, ils travaillaient qu'entre femmes. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils faisaient une tournée avec le cheval et la charrette. Puis aujourd'hui, forcément, vous imaginez les moyens de distribution actuels. Hein.
Donc ensuite, j'imagine que le développement sur 30 hectares ne s'est pas fait en deux jours. Et du coup... Est-ce que ce développement a été fait pour répondre à une demande ou il y a eu, entre guillemets, aussi un peu une prise de risque au niveau du développement sans pour autant savoir quels allaient être les circuits de distribution ?
Mais forcément, il y a toujours un risque, hein, surtout quand on investit dans du bâtiment, du matériel. On s'engage pour 20 ans avec des emprunts. Après ça, la demande est toujours été là, toujours été croissante. On a des clients fidèles et puis on est un peu trop passionné aussi, on est un peu fou du boulot. Donc, puis on a toujours essayé les nouvelles cultures sans trop en enlever des anciennes. Donc forcément, la gamme s'est élargie, les surfaces se sont agrandies, des nouveaux clients. Donc forcément, c'est l'engrenage, quoi.
Est-ce que vous pouvez me dire combien de salariés vous avez dans l'entreprise ?
Alors aujourd'hui, on a un noyau dur de 18 personnes et puis on monte à 32-34 l'été avec les saisonniers et puis les vendeuses sur le marché, quoi.
Et si on reprend un peu point par point vos circuits de distribution, est-ce que vous pouvez me dire quels ils sont et peut-être aussi ce que ça représente en part de marché dans le fonctionnement de l'entreprise ?
Alors les marchés, c'est 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. Notre boutique sur place, les casiers distributeurs, je n'ai pas trop ça en tête, c'est à peu près 10%. Et puis après, on fait un peu de drive, de la vente en ligne. Et puis les cuisines, cantines, j'ai pas les chiffres en tête. Supermarché, c'est encore 20-25%. Et puis les grossistes, 15-20% aussi. Donc c'est à peu près ça, le panel, quoi. Tout à sa place à un moment ou à un autre, hein. C'est important d'avoir toute une gamme de débouchés parce qu'il y a forcément un moment où on a beaucoup trop de marchandises, on est content d'avoir la grossisse. Et inversement, quand il y en a pour beaucoup, ben, ils en ont moins, quoi. C'est la soupape.
Donc vous arrivez de toute façon à trouver une issue à toutes vos productions.
À moins que le marché soit complètement bouché, qu'il y en ait vraiment saturation partout, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Tout légume qui est forcément présentable et bon à la vente, 99 fois sur 10, 9 fois sur 10, il est vendu. Ça y est, sans problème.
Vous m'avez dit, si je ne fais pas d'erreur, les casiers, ça représente 10%.
Oui, mais j'ai plus trop ça en tête, mais à peu près 10% du chiffre d'affaires. Ouais, ouais. C'est important, ça a bien augmenté parce que ça fait que 5 ans, ça. Hein. Le distributeur, là, il a que 5 ans, il a bien évolué. L'idée est venue parce qu'on a forcément des clients, des gens qui venaient sur place, sous le bâtiment, puis on est en train de préparer les commandes. Donc, on n'a pas forcément tout sous la main, c'est un peu perturbateur. Et en plus, c'est au niveau des contraintes horaires, c'est pas très large. Donc, pour satisfaire les clients, on a fait cette petite boutique 7 sur 7. Comme ça, les gens ils viennent quand ils veulent, quand ils sont prêts. Et puis, on a une offre assez intéressante. Et puis, ça oblige. Il n'y a besoin de personne à l'intérieur pour servir. Donc, les gens sont. On a très, très bon retour. Très, très bon retour. Et puis, ça a toujours évolué, toujours augmenté depuis le début. Ça ferait 5 ans, ouais. 5 ans au mois de mai.
Il faut aussi savoir s'adapter pour à la fois faire perdurer et en même temps continuer de développer l'entreprise.
Ce qu'on remarque, c'est le changement climatique. Donc, il va certainement falloir s'adapter, choisir de plus en plus ces cultures, moins gourmandes en eau. Parce que vu avec l'été qu'on a passé, ça a été très, très éprouvant physiquement d'arroser, de maintenir en vie les plantes. Et il y a certaines plantes qui n'étaient pas du tout dans leur climat. Donc, à réfléchir pour l'avenir, quoi. Ça, c'est important. Et on s'adapte au temps. Enfin, puis on a la chance d'avoir une grande diversité. Donc, il y a forcément un légume qui est bien avec le climat, qui est pile poil dans le créneau, et un autre qui est pas trop dans sa saison. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, quoi. Mais c'est beaucoup de travail, toujours, toujours, toujours.
Est-ce que vous avez encore des projets de développement de l'entreprise ?
Des idées, il y en a forcément. Après, faut que ça soit viable, et puis il faut les financer. Faut pas trop aller trop vite non plus. Bon, puis j'ai mon fils qui est à l'école pour nous suivre, pour aller avec nous. Donc tout ça, il aura ses idées aussi. Donc ça va mûrir. Mais des projets, on en a toujours. Sinon, il n'y a plus de vie après. Le projet, c'est la vie.
Partons maintenant à Louhans, rencontrer Marie-Kiel Baza. Elle a créé la petite ferme sur les terres familiales.
Je suis Marie-Kiel Baza. Je me suis installée à Louhans, sur la ferme de mes parents. Donc j'ai créé l'exploitation La Petite Ferme à Louhans. Ça fait un an du coup que je suis installée. J'ai repris une exploitation où il y a une production de céréales, du foin et une création d'un atelier de maraîchage, donc pour vendre de légumes diversifiés tout au long de l'année, en vente directe à la ferme. Moi, j'ai grandi à la ferme, c'était une toute petite ferme avec une ambiance très familiale, une petite production. Donc on a toujours été à aider, donner des coups de main en famille. Il y avait mes grands-parents qui aidaient, mes parents qui travaillaient et nous, les enfants, du coup, qui aidions aussi. Et puis la vie a fait que je me suis un peu éloignée de ce milieu-là. Je suis partie dans un milieu un peu plus artistique. J'ai traversé un peu la France pour faire de la création et de la restauration de vitraux. Et puis un jour, une prise de conscience ou l'envie de revenir chez moi. Et du coup, je me suis décidée à reprendre l'exploitation. Avec l'idée du coup d'essayer de faire perdurer un peu la petite ferme. Et d'y ajouter une activité qui fasse venir du monde et qui puisse... dynamiser aussi un peu le territoire. Et avec l'idée, en fait, il y avait des serres présentes sur la ferme qui permettaient de faire sécher le tabac avant et qui ne servaient plus à rien parce qu'il n'y avait plus cette production-là. Et donc l'idée, c'était de les réhabiliter pour pouvoir faire pousser des légumes dedans. Et du coup, d'où l'idée de l'activité maraîchage.
Alors, est-ce que vous pouvez me redire ce qu'il y avait en production quand vous avez repris? Et est-ce qu'au moment où vous avez repris, c'est parce que vos parents partaient à la retraite?
Alors, quand moi j'ai repris, c'était pour faire la suite après le départ à la retraite de ma mère, qui était responsable de l'exploitation. Mon père, qui travaillait sur l'exploitation, lui était déjà à la retraite. Et à ce moment-là, du coup, il n'y avait plus qu'une production de céréales conventionnelles. Et c'était tout. Il n'y avait plus que ça. Du coup, moi, j'ai repris ces céréales. J'ai créé on a semé des prairies pour faire des partenariats aussi avec des éleveurs du village qui viennent couper le foin dans les champs. Et du coup, j'ai créé la production de légumes. En tout, il y a à peu près 35 hectares. Il y a une petite vingtaine d'hectares de céréales, 10-15 hectares de prairies et 1 hectare à peu près de légumes. Il y a à peu près 1 hectare de légumes dont... Enfin, plus, tout n'est pas exploité pour la surface en légumes et j'ai 1500 m² de serre, donc c'est un beau potentiel.
Quand vous avez décidé de vous lancer, quelles ont été peut-être vos questions et éventuellement vos doutes ou vos craintes pour finalement changer de vie et puis en vivre ?
Alors oui, forcément, il y a toujours des craintes. J'ai une philosophie de vie qui fait que quand j'ai décidé un projet, je me lance dedans sans ignorer les questionnements qui sont importants, mais en essayant de mettre de côté. Et je mets ma ligne de direction et donc je m'y tiens. Après, clairement, il y avait le souci financier quand même. Mine de rien, c'est quand même un enjeu financier. La ferme telle qu'elle était, économiquement, ça n'allait pas du tout. Donc l'idée, c'était pas de reprendre une exploitation pour sachant de suite que j'allais pas pouvoir m'en sortir financièrement. Et du coup, oui, il y a la question de même si l'idée c'est pas d'avoir des revenus mirobolants, au moins de pas perdre d'argent avec une activité qui déjà physiquement et dans la vie de famille prend énormément de place.
Quelles ont été en fait vos démarches, votre analyse pour aller dans une direction qui économiquement soit viable ?
Quand j'ai commencé mon projet de reconversion, j'ai fait une formation, donc à un brevet professionnel d'exploitation agricole. Durant cette formation, on est amené en fait à travailler sur un modèle économique, à faire tout le projet qui finalement est nécessaire quand on veut réellement s'installer et qu'on a toutes les démarches administratives à faire. Donc l'idée, c'était sur 3 ou 4 ans de chiffrer tout ce qu'on envisageait de produire et de savoir combien ça allait nous rapporter, est-ce que c'était économiquement viable ou pas. Donc ça, moi, je l'ai fait en 2017, donc ça faisait quelques années. Bien sûr, il y avait des chiffres à reprendre, mais c'était déjà une bonne base pour savoir là où j'allais. Après, du coup, je me suis recentrée. Quand j'ai fait ma formation, on était géographiquement plus dans la région. Donc, on est venu s'installer ici. Donc, il a fallu remettre à jour mon projet. Et donc, je suis partie dans l'idée que je voulais nourrir vraiment mon territoire et me concentrer uniquement sur la vente à la ferme et ne pas faire un système d'AMAP et ne pas aller vendre mes légumes dans l'agglomération Tourangelle ou même à Loche ou dans d'autres communes. Mais essayer de me concentrer sur mon territoire, parce que c'était une de mes problématiques en fait. Un de mes objectifs, c'était moi de faire vivre la ferme, mais aussi d'avoir une activité qui soit sur mon territoire en fait, directement, ma commune et les communes aux alentours. Et du coup, j'ai essayé de me dire combien de personnes j'aurais besoin qui viennent chercher des légumes chaque semaine pour que mon système soit économiquement viable. Et du coup, partant de là, c'était aussi, il ne suffit pas de savoir combien de personnes sont nécessaires pour vendre, mais pour combien de personnes on peut produire en fait, des légumes. Donc j'ai essayé de chiffrer à une quarantaine de personnes qui viendraient chaque semaine tout au long de l'année prendre des légumes, sachant que les personnes peuvent être différentes puisqu'il n'est pas question d'abonnement. Donc on peut décider de venir une fois tous les 4 mois ou toutes les semaines, ça dépend vraiment des personnes. Et du coup, de me baser là-dessus. Après un an d'activité, ça va faire 6 mois presque que je vends mes légumes. Je me rends bien compte que les prévisionnels sont parfois un peu surestimés et que c'est pas évident de faire déplacer les gens sur l'exploitation. Mais je pense qu'il y a un travail à faire de communication et pour que les gens déjà sachent que la petite ferme existe, qu'il est possible de se fournir en légumes directement à la ferme. Et puis essayer de faire des partenariats avec des restaurateurs aux alentours ou des petites épiceries. Il y a des épiceries ambulantes. Et donc ça fait partie des choses qui sont encore à développer.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez choisi de cultiver au niveau du maraîchage? Et est-ce que, dans votre prévisionnel, vous êtes capable d'atteindre la production souhaitée?
Alors, en termes de légumes, l'idée, c'était d'avoir la plus grande variété de légumes possible. Je suis partie bêtement sur quelle est ma propre consommation à moi, qu'est-ce que j'ai envie de manger pendant toute l'année. Sachant que j'aime beaucoup le chou, mais l'idée, c'est pas forcément de manger du chou toutes les semaines. Donc, d'essayer d'avoir une variété tout au long de l'année, au moins une dizaine de légumes. Alors, forcément, y a des saisons où c'est plus facile que d'autres. Mais du coup, ça va de, évidemment, des choux, de toutes les courges, les pommes de terre, les tomates, les haricots. Essayer d'avoir une diversité tout au long de l'année. Et mêler les légumes frais, parce que même l'hiver, en fait, avec les serres, on peut avoir des épinards ou des choses qui sont des légumes qui sont frais, et avec la conservation pour les pommes de terre. Alors, en réalité, le temps m'a un peu manqué cette année. Je pense que personne n'est censé savoir ne pas savoir qu'il a fait un peu sec cet été et que c'était parfois un peu compliqué pour les cultures. Que moi, mon système d'irrigation n'est pas encore installé, donc... arroser à la main avec un tuyau d'arrosage, ça prend un peu de temps. Donc, ça m'a pas permis de faire toutes les plantations que je voulais pour cet hiver. Mais du coup, le prévisionnel était à peu près respecté dans la liste des légumes, en tout cas. Et l'avantage d'avoir plein de légumes différents, ça permet que s'il y en a un qu'on n'a pas réussi à faire, avec un peu de chance, les autres permettront de réguler les choses, quoi.
Quel est votre bilan finalement de la première année? Est-ce que vous avez eu du stock que vous n'avez pas pu écouler, ou est-ce que vous avez dû trouver d'autres solutions pour distribuer? Est-ce que vous envisagez de rester sur votre axe ou éventuellement de trouver d'autres moyens d'éventuellement distribuer?
Dans la famille, on a tendance à dire qu'il y a des génétiques d'être un peu têtu. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut là-dessus. Donc, je reste sur mon axe de vente directe à la ferme. Je pense qu'il faut quand même... Je viens de commencer, il faut... Enfin, voilà, quand on commence une activité, il faut persister un peu. Après, il ne faut pas avancer les yeux fermés, mais je vois qu'il y a quand même des personnes qui ne sont pas encore au courant, et même des personnes qui habitent ma commune, alors que le message est quand même passé. Moi, j'avais fait un peu du porte-à-porte. Il y a un petit article qui est passé sur moi dans le magazine de la commune. Mais il y a encore des gens qui ne savent pas. Donc je pense qu'avant de développer un autre et de me décider à aller faire des marchés, il y a encore du travail à faire sur la communication pour réaliser un peu mieux mes objectifs. Après, il y a quand même des partenariats qui n'étaient pas forcément prévus. Y a un pizzaiolo qui vient toutes les semaines qui me prend de temps en temps des tomates ou des oignons. Et les stocks, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu bien avancer sur les cultures d'hiver. C'est qu'effectivement, en plein été, j'ai eu beaucoup trop de tomates, de courgettes, de plein de légumes. Ce qui m'a forcé à anticiper un peu ma volonté de faire de la transformation. Donc j'ai commencé à faire des bocaux de haricots, de soupe, pour conserver des légumes. Ce qui n'était effectivement pas prévu, mais qui faisait partie de mes souhaits quand même. Donc ça a un peu bouleversé mon plan. J'avais pas forcément anticipé de le faire cette année, mais je pense que c'est une bonne chose quand même.
D'accord, ça fait partie de vos projets de développement. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y a beaucoup, beaucoup de projets de développement dans ma tête. Alors, il y a l'idée de faire de la transformation, c'était une chose. Alors, à terme, là, je l'ai fait de manière très artisanale et il faudrait mieux développer ça. Après, il y a l'idée de pouvoir ouvrir une ferme pédagogique, mais pour l'instant, il faut déjà que j'implante suffisamment mes cultures avant de pouvoir réellement développer cette activité-là. L'idée, c'est d'avoir une exploitation la plus vivante possible, en fait. Donc d'avoir toutes les raisons de montrer, d'apprendre déjà de faire de la pédagogie, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les légumes, ne connaissent pas grand-chose, en fait. Et donc, il suffit juste d'expliquer et du coup, de développer tout ce qui peut être accueilli à la ferme et pour rendre cette ferme la plus vivante possible.
Nous quittons Louhan pour nous diriger vers la ferme de la Courette à Chaumussé, où Mathieu Bègue a fait le choix de venir s'installer en 2020 pour produire des légumes bio.
Je m'appelle Mathieu et ici on est à la ferme de la Courette. C'est un lieu dans lequel j'habite avec ma compagne depuis l'année 2020. On a acheté cette ferme en 2018 et on a passé 2 ans à la rénover avant de pouvoir y habiter. Et le projet, c'est de pouvoir s'installer ici et de cultiver des légumes pour pouvoir en vivre. Alors c'est un projet qui est né en 2015 ou en 2016. Et moi j'avais un métier tout autre avant de devenir maraîcher. Je travaillais dans l'armement militaire, j'étais ingénieur. Donc toute la journée dans des bureaux, à faire de la conception, des essais, des choses comme ça. C'était très intéressant, mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai eu envie de faire autre chose. Et on s'est posé beaucoup de questions avec Mallory, ma compagne, sur ce qu'on pouvait faire pour pouvoir travailler hors de la région parisienne, parce qu'on vient de la région parisienne. Et donc le projet s'est construit autour de l'habitat rural et de la production de fruits et légumes en agriculture biologique.
Comment vous vous êtes préparé pour développer et donner vie en fait à votre projet?
Alors je dirais qu'il y a eu deux types de préparation. Il y a la préparation qui concernait notre lieu de vie. Il a fallu qu'on sélectionne une zone pour choisir la ferme dans laquelle on voulait habiter. Et puis il y a eu une deuxième préparation qui consistait là vraiment à monter le projet professionnel. Pouvoir se former, récupérer des fonds pour créer la structure juridique et ensuite commencer à produire des légumes. La première partie, donc trouver la ferme, ça a été relativement facile. On avait une zone qui était prédéfinie entre Tours, Nantes et La Rochelle pour des questions géographiques de proximité avec nos familles respectives. Et puis après, on a tout simplement cherché sur le bon coin. On a trouvé quelques fermes, on les a visitées. Et c'est vraiment la ferme de la Courette qui nous a séduites. Et du coup, voilà, c'est celle qu'on a choisie. Et puis après, pour la préparation professionnelle, je me suis beaucoup documenté à travers des reportages, à travers des formations en ligne. J'ai pas fait de cursus académique de formation agricole. Après, j'ai appris sur le tas, quoi. Et c'est une bonne méthode de formation. Par contre, elle peut être risquée et douloureuse quand on se trompe et qu'on n'arrive pas à se remettre en cause, se remettre en question. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux.
Alors, du coup, vous êtes en maraîchage bio. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer quels ont été vos choix? Et de quelle façon, en fait, vous avez commencé à construire votre projet?
Alors, le maraîchage bio, ça a été une évidence. Pour moi, le maraîchage qu'on appelle le maraîchage biologique, c'est le maraîchage basique. Hein. On sème des plantes, on implante des cultures et puis après, je ne vais pas dire qu'on laisse faire, mais il suffit de maintenir l'irrigation du sol, il faut maintenir les bonnes conditions pour que les plantes se développent. Et moi, j'ai fait le choix de rien rajouter de synthétique, voilà, pas d'engrais de synthèse, pas de produits phytopharmaceutiques pour le soin des plantes. Et c'est vrai que c'est quelque part c'est plus facile dans la gestion au quotidien parce que les tâches récurrentes se limitent au désherbage, à l'irrigation, à la récolte, à la plantation, et il n'y a pas tellement de soins à apporter aux plantes plus que ça, quoi. Donc quelque part ça simplifie les choses. Et après, nous on a été certifié en agriculture biologique dès le début, avant qu'il y ait le moindre légume qui soit récolté. Le terrain était propice à ça, l'organisme certificateur est venu sur la ferme et on a été certifié quasiment du jour au lendemain, parce que il n'y a jamais rien eu qui a poussé sur cette ferme depuis les 20 dernières années. Donc voilà, c'était une friche de 3 hectares.
À quel moment avez-vous planté les premiers légumes pour les récolter quand? Et avec quelle destination de commercialisation?
Alors, il faut se remettre dans le contexte. Quand on est arrivé ici, on est arrivé en mars 2020. Et si vous vous souvenez bien, en mars 2020, c'était le début du premier confinement. On est arrivé à la ferme et j'avais pas encore monté la structure juridique qui existe aujourd'hui. Donc, j'étais tout simplement un touriste en vacances ici, sans pouvoir acheter des fournitures professionnelles, des choses comme ça. Et faut se souvenir que les magasins étaient fermés à cette époque-là. Il fallait faire des queues, il fallait faire de la commande par internet, etc. Et donc, les premières graines, les premières semences que j'ai achetées, je les ai achetées dans des magasins de bricolage, tout simplement. Évidemment, en bio, pour pouvoir maintenir la certification. Mais ce n'était pas des graines qui étaient forcément bien adaptées à la culture avec un certain niveau de quantité. Et donc, j'ai commencé comme ça, avec quelques haricots, quelques graines de tomates, des salades, des choses comme ça, des trucs assez simples. Et puis ça a marché. Au début, j'avais pas les circuits de distribution que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai démarché des restaurateurs, j'ai démarché des petits magasins de producteurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé, avec quelques caisses de salade, de radis, de courgettes. Des trucs vraiment très simples à faire pousser. Et puis, le mois de septembre 2020 est arrivé. Et là, j'ai pu créer la structure juridique qui est la ferme de la Courette aujourd'hui. Et avec ça, j'ai pu commencer à travailler avec des professionnels, notamment des magasins spécialisés comme Biocoop, par exemple. Et là, ça a vraiment donné un autre tournant à la production, puisque ils achètent un certain volume de légumes quand même chaque semaine. Et du coup, ça a vraiment accéléré les choses sur les quantités, la qualité de la production et le type de semences que je peux utiliser. Et voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de travailler avec quasiment exclusivement les magasins spécialisés sur Poitiers et Châtellerault, parce que je suis vraiment débutant en production de légumes, et c'est une certaine facilité pour moi que de chaque semaine appeler les magasins, leur demander ce dont ils ont besoin et les livrer. Je travaille vraiment quasiment sur commande. Il n'y a pas de perte, je ne fais pas de marché. Du coup, je ne me retrouve pas avec des invendus et je n'ai pas de temps à consacrer à la commercialisation. C'est tout le temps que j'économise, je le consacre à la production et à l'entretien des cultures.
Et alors, du coup, avec 2 ans de recul, alors est-ce que déjà vous pouvez me dire tout ce que vous cultivez, sur quelle surface et un peu quelles sont, vous l'avez déjà un peu dit, mais peut-être rappeler encore vos méthodes. Si vous pouvez me citer, si c'est possible, si vous travaillez avec des restaurateurs, qui sont vos clients?
Alors ici, le terrain de la ferme de la Courette fait 3 hectares. 3 hectares, c'est l'équivalent de 6 terrains de football, les uns à côté des autres. Néanmoins, je n'utilise pas la totalité de la surface. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul ce matin, j'utilise à peu près 2000 à 2500 mètres carrés de surface qui sont entièrement dédiés aux légumes. Quand j'ai commencé en 2020, je me suis focalisé sur 7-8 familles de légumes, et aujourd'hui j'en suis à une quinzaine ou une vingtaine de légumes différents répartis sur toute l'année. Alors ça va des tomates, des courgettes, des haricots, des petits pois, des salades, des oignons, vraiment les grands classiques. Je fais pas encore de légumes très, très spécifiques, des légumes de niche comme des rutabaga ou des légumes oubliés, on va dire. Aujourd'hui, c'est vraiment une augmentation continue du volume de légumes et de la qualité des légumes qui sortent de la ferme de la Courette. En dehors des magasins spécialisés comme Biocoop, je travaille avec un restaurant qui s'appelle L'Ouvrière à Availle en Châtellerault. Et donc c'est un restaurant très familial qui utilise exclusivement des produits locaux. Donc de temps en temps, je leur livre des poireaux, des haricots, des courgettes, des fleurs de courgettes. Et ils arrivent à magnifier les légumes. Et ça, c'est une satisfaction supplémentaire que d'aller manger dans ce genre de restaurant-là et de voir le travail le travail des chefs qui est réalisé sur les légumes qu'on produit. Ça, c'est une grande satisfaction. Il y a également l'arrache qui dit oui. Donc ça, c'est un bon système également. Les clients particuliers commandent sur la plateforme internet de l'arrache qui dit oui. Et toutes les semaines, je reçois la liste des commandes qui ont été passées sur la plateforme et je ne récolte que les légumes qui ont été commandés. Je livre ça une fois par semaine sur un point de dépôt à Châtellerault et à côté de Poitiers. Et donc voilà, ça c'est aussi ça représente à peu près, ça représente à peu près 20% de mon chiffre d'affaires.
Est-ce que vous faites également vous développer la vente à la ferme ?
Ça c'est quelque chose qu'on voudrait développer dans les années à venir. J'ai pas encore, moi je me sens pas encore suffisamment prêt pour pouvoir accueillir des gens à la ferme. Parce que ça nécessite quand même quelques infrastructures. Il faut pouvoir accueillir les gens dans des bonnes conditions, avec un bâtiment qui soit dédié à ça. Aujourd'hui, tous mes bâtiments sont soit dédiés au stockage, soit dédiés à la production des légumes. Et j'ai pas de bâtiment pour la présentation, la promotion et la vente des légumes. Il faut pouvoir accueillir les gens et les faire stationner sur un parking, parce que très vite, la cour de la ferme se remplit de véhicules et c'est assez difficile de se déplacer. Mais dans le courant de l'année 2023, je pense que j'aurai une diversité de légumes suffisante pour pouvoir accueillir les gens. Aujourd'hui, là, par exemple, en plein été, beaucoup de personnes ont déjà des légumes dans leur jardin, donc ça limite les fréquentations. Et puis, les légumes que j'ai... La diversité de légumes que j'ai aujourd'hui me permet pas d'accueillir les gens convenablement. Donc je pense qu'en 2023, avec l'augmentation de la production de légumes que je prévois, on fera quelque chose pour accueillir les gens à la ferme et faire une vente à la ferme.
Et ça me permet de rebondir sur la question suivante. En fait, quels sont vos axes de développement ? Vous allez cultiver davantage de surface ?
Alors moi j'essaie de respecter un principe qui est de multiplier les débouchés, de multiplier les variétés de légumes, de multiplier les types de production que je fais un petit peu de transformation. Donc on part du légume brut et on en fait des sauces tomates ou des veloutés de courgettes, veloutés de poireaux. Et ça c'est quelque chose que je trouve très important, de pouvoir avoir une diversité de production en termes de type de production. Ça c'est assez important. Et je fais la même chose avec les débouchés. Donc je vous ai parlé des magasins spécialisés, de la vente à la ferme, de la commande par internet au travers du site web La Ruche qui dit oui. Et je vais essayer également de pouvoir commercialiser avec la restauration collective, et notamment avec des établissements comme des collèges et des lycées dans le sud de Touraine.
2 ans après avoir démarré, est-ce que le système économique dans lequel vous êtes aujourd'hui vous satisfait ?
Le système économique dans lequel je suis aujourd'hui ne me satisfait pas encore, dans le sens où j'ai pas atteint une rentabilité suffisante pour pouvoir me rémunérer de mon activité. Ce sera probablement le cas en 2023 ou en 2024. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires double chaque année. C'est un chiffre d'affaires qui reste modeste, mais la ferme est dimensionnée pour pouvoir rémunérer au final un équivalent temps plein. Donc je pense pouvoir, ouais, voilà, ça, je pense pouvoir y arriver en 2023-2024. Aujourd'hui, c'est assez prometteur. Les prévisions que je fais, la planification que je fais chaque année sur les quantités de légumes à sortir augmentent et montrent qu'en 2023 ou 2024, on devrait pouvoir y arriver.
Est-ce que ça correspond aux prévisions que vous aviez faites initialement ? Et est-ce que vous avez eu des moments de doute et de remise en question ?
Des moments de doute et de remise en question, on en a tous les jours. Par exemple, ce matin, j'avais une récolte de haricots à faire. Je pensais en avoir énormément, et en fait, il y en avait un petit peu moins que prévu. Donc les clients seront livrés avec un peu moins de haricots, mais c'est pas grave. Ça, voilà, tous les jours, on doute, on se remet en question, on essaie de trouver des solutions. Là, j'ai analysé, la réponse, c'est que tout simplement, en ce moment, il fait très chaud et très sec. C'est pas forcément les conditions favorables Pour la culture des légumes, il faut arroser sans cesse. C'est pour ça que les rendements ne sont pas forcément favorables sur certains types de légumes, sont plus favorables sur d'autres types de légumes. Et voilà, chaque jour, je me pose des questions sur est-ce qu'il faut continuer cette culture-là qui ne donne pas quelque chose de formidable et est-ce qu'il faut en faire l'année prochaine ou pas. Et ouais, c'est sans cesse la remise en question. Et au final, la réponse, c'est que oui, il faut continuer à faire ce type de légumes, il faut comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas, et arriver à corriger ça. C'est sur les 2 années précédentes, j'ai réussi à corriger le tir sur 1 dizaine de légumes qui étaient franchement pas très jolis au début, et qui aujourd'hui sont convenables, et c'est très prometteur. Sur des choses aussi simples que les radis, par exemple. Le radis, on dit que ça pousse très très vite, mais en fait c'est assez compliqué de faire des bottes de radis dignes de ce nom, avec des radis qui sont commercialement acceptables, c'est-à-dire ni trop gros, ni trop petit, ni trop piquant, ni pas assez piquant. Et aujourd'hui je commence à y arriver, à avoir des bottes de radis dignes de ce nom. Pareil pour les brocolis. Les premiers brocolis que j'ai faits, ben, on va pas se mentir, je les ai ratés. Ils étaient trop petits, c'était une question de fertilisation. Aujourd'hui j'ai corrigé le tir. La fertilisation est adaptée à la culture du brocoli et aujourd'hui je sors des brocolis qui sont acceptables. Et l'année prochaine, je sais que je corrigerai d'autres paramètres qui feront que ce type de légumes sera, j'espère, parfait. Quand je me suis installé, je pensais que ce serait assez facile de produire et très difficile de commercialiser. Je m'aperçois que c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que les conditions climatiques, la faune locale qui est assez agressive vis-à-vis de mes légumes font que la culture de légumes est finalement plus compliquée que la commercialisation. Au final, j'arrive assez bien à vendre les légumes parce que j'ai une production qui est relativement réduite, mais c'est assez compliqué de faire pousser des légumes. Donc, moi, je m'améliore de semaine en semaine, mais bon. Et pour la prévision, je pense que on devrait arriver à se rémunérer dans les prochaines années. C'est conforme à ce que j'avais prévu initialement.
À travers son projet alimentaire territorial, la communauté de communes Loche Sud-Touraine et ses partenaires soutiennent la production locale et accompagnent l'essor du maraîchage sur le territoire. Sophie Levasseur, chargée de projet alimentaire territorial.
On constate un essor de jeunes installés depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, en Sud-Touraine, on est à peu près à une trentaine de maraîchers sur le territoire. Donc, quand je dis maraîcher, on a surtout du maraîchage diversifié en agriculture biologique. Donc, plutôt des profils comme Marie et Mathieu, qui sont, on va dire, hors cadre familial, en reconversion professionnelle, qui ont souvent fait des études assez longues et qui trouvent en Sud-Touraine un foncier qui est abordable au niveau du prix par rapport à d'autres régions, d'autres régions agricoles de la région Centre-Val-de-Loire. Et donc, ils trouvent aussi un cadre de vie intéressant, une dynamique rurale assez fort. Et donc aujourd'hui on a beaucoup de maraîchers depuis 2-3 ans sur du maraîchage diversifié avec une trentaine de variétés de légumes, souvent en vente directe. On a très peu de profils semi-gros ou des profils comme Monsieur Tarnier qui peuvent avoir sur des parcelles un peu plus conséquentes des légumes et donc aller vers des dimensionnements un peu plus conséquents.
Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Et est-ce que d'un point de vue économique, c'est possible pour tous de trouver des débouchés?
C'est une grande question et j'ai envie de dire c'est la grande question aujourd'hui qu'on se pose puisque en tout cas le territoire à proprement parler de Sud-Touraine, de Loche Sud-Touraine, c'est 50 000 habitants. Il y a des marchés bien sûr, mais on constate en fait aujourd'hui qu'il y a des... En maraîchage diversifié, en tout cas, on a des débouchés qui commencent à être compliqués, notamment sur le marché de Loche. Donc, il y a une grosse problématique, puisqu'en fait, souvent, ces personnes-là, on insiste beaucoup pour qu'ils puissent se faire accompagner en amont pour axer sur une étude de marché, etc. Puisque aujourd'hui, même si techniquement, ils arrivent à produire des légumes, on peut faire les meilleurs légumes du monde. Si on n'arrive pas à les vendre, ça ne sert à rien économiquement, c'est pas du tout viable. Et donc, souvent, ces personnes-là ont en tête de se dire, bon, on va produire des légumes et puis ça va se vendre. Je vais mettre un panneau sur le bord de la route, voilà, on vendra que ça va aller. Et ben en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'on est dans un milieu rural, donc les personnes ont déjà aussi leur potager chez eux, etc. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur peut-être une création d'un map, ça ne correspond pas encore à tout le monde, ou même, et c'est pour ça qu'on travaille au niveau de la communauté de communes, d'aller vers la restauration hors domicile. Mais ça, ça demande aussi, comme on avait vu dans un ancien podcast, il y a des freins et il y a des solutions à envisager, mais pour l'instant, qui ne sont pas encore mises en place, en tout cas.
Ça me permet de rebondir sur la question, savoir si dans le cadre du PAT, la communauté de communes a une forme d'engagement pour trouver des débouchés et en même temps soutenir l'installation et le développement des maraîchers.
Il y a deux réponses en fait à cette question sur l'accompagnement et sur le projet alimentaire territorial, en quoi on souhaite installer des personnes en maraîchage. Tout d'abord, on part du constat qu'en termes de surface agricole utile, notre territoire est principalement recouvert de céréaliers et la partie maraîchage et arboriculture ne représente que 0,5%. Donc on est très loin de relocaliser les fruits et légumes sur notre territoire. Donc en termes d'accompagnement, on a deux politiques. On a une politique d'accompagner à l'installation agricole. Donc pour ça, on s'entoure de tous nos prestataires agricoles pour qui ont les compétences techniques d'accompagnement individuel et collectif de ces personnes-là. Donc ces prestataires peuvent autant accompagner sur la mise en place des rotations de culture, sur la planification, sur la réflexion sur l'irrigation, et aussi de mener des groupes collectifs à plus petite échelle, puisqu'aujourd'hui il y a un groupe maraîchage qui existe au niveau de l'Indre-et-Loire et on souhaiterait faire pareil mais au niveau du sud Touraine. Puisque en fait les maraîchers n'ont pas le temps de se rencontrer forcément, ils sont dans leur production et on souhaiterait pouvoir les accompagner là-dessus. Donc ça c'est la première chose, l'accompagnement individuel et collectif technique. Et la deuxième chose c'est sur les débouchés, sur l'étude qu'on va mener, sur une étude de logistique auprès de la restauration hors domicile pour savoir comment s'organiser les flux sur le territoire, comment s'organisent les débouchés. Donc là c'est toute production et toute labellisation confondue. Et savoir aussi quantifier réellement de combien a besoin la restauration hors domicile, donc les restaurants scolaires, les EHPAD, les centres médico-sociaux, etc. Et de voir comment on peut optimiser ces flux. Est-ce qu'on a besoin d'un point de massification sur notre territoire? Est-ce qu'on a besoin d'un camion frigorifique? Et là, c'est l'étude qui devrait commencer à partir de janvier. Ça a pris un peu de retard, mais ça devrait commencer à voir le jour à partir de janvier. Au sein du projet alimentaire, il y a un des axes forts, c'est l'accompagnement aux débouchés de ces jeunes installés. Et souvent, les porteurs de projets viennent toquer à la porte de la communauté de communes en priorité parce qu'ils partent bien en tête en disant « je veux m'installer, je veux du foncier ». Et là, c'est mon rôle à moi en tant qu'accompagnatrice de les réorienter, de leur dire « écoutez, où est-ce que vous en êtes dans votre projet? C'est quoi vos freins? C'est quoi les solutions? C'est quoi les structures d'accompagnement qui existent par rapport à là où vous en êtes sur votre projet ?» Et souvent, c'est des personnes qui ne sont peut-être pas passées au point accueil installation de la Chambre d'agriculture, qui ne connaissent pas les autres structures d'accompagnement pour de l'installation progressive. Et c'est aussi mon rôle de les freiner pour pas qu'ils s'installent trop vite et de les retrouver au bout de 2 ans à s'arrêter parce qu'en fait, ils ont fait les choses dans le mauvais ordre.
C'était le Sud Touraine dans l'assiette, avec les maraîchers Marie-Kiel Baza, Mathieu Bègue et Jérôme Tarnier. Un podcast proposé par la communauté de communes Loche Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.